Dans la plupart des cas, nous considérons le jugement comme une sentence. Des fois, quand nous pensons au jugement, nous pensons à une décision décisive dans un moment donné. Mais considérons, je vous invite à considérer ce qui se passe au tribunal. Au tribunal, on présente des preuves, n'est-ce pas? On donne des arguments. On écoute beaucoup. On écoute. On écoute l'histoire, les témoignages. On écoute les faits. Il y a du temps qui passe aussi. Et tout ça avant la sentence du juge. Puis, à un moment donné, et ça peut arriver dans différentes façons, par rapport à différentes cours, bien sûr, mais le juge, éventuellement, va prononcer la sentence. Des fois, il dépend de la décision de la jurée aussi, mais des fois, c'est le juge même qui, souvent, tout souvent, c'est le juge même qui prend décision, qui annonce la sentence. Et c'est après avoir tout considéré que le juge fait la sentence, n'est-ce pas? Dieu veut que tous entrent dans son royaume. Il nous donne du temps. Il nous donne du temps dans cette vie physique. Et donc, dans le jugement éternel, il y a une période, si vous voulez, une période de temps, une période d'essai. Il y a, bien sûr, des faits qui se passent, des épreuves, des preuves. Et aussi, il y a une décision. Et puis après, il y a une sentence. Aujourd'hui, pour ce sermon, gardons ces points en tête lorsque nous examinons les jugements de la Bible. Pour chaque jugement, qui est jugé? Quand est la période du jugement? Comment se passe la sentence? Donc je vous invite à considérer ces questions pour chacun de ces jugements que nous allons discuter aujourd'hui. Mais avant de passer au jugement de la Bible en pur, il faut reconnaître le juge suprême qui est Jésus-Christ. Jean chapitre 5, à partir du verset 20. Jean chapitre 5, à partir du verset 20. Le juge suprême, c'est Jésus-Christ. Jean 5, verset 20. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. » Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voici une responsabilité lourde qui est passée du Père au Fils. Je vais vous citer le psaume 9, versets 7 à 8, pas besoin d'y reporter, mais psaume 9, versets 7 et 8 disent « L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. » Donc, quand nous considérons le jugement de l'Éternel, c'est un jugement avec justice. C'est un jugement avec droiture. Il n'y a pas d'erreur dans le jugement de l'Éternel. Il n'y a pas d'erreur. Ésaïe chapitre 11. Reportons-nous en Ésaïe chapitre 11. Comment juge-t-il? Ah bien, Ésaïe nous donne des indications de comment se passe le jugement de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 3. Ésaïe 11, verset 3 et 4. Il respira, respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un redire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Encore quelques indications sur comment se fait le jugement de l'Éternel, ce jugement parfait. L'homme n'a pas changé, en fait. L'homme juge toujours les pauvres sans équité. Mais Dieu, qui ne change jamais, jugera avec équité. Les pauvres, il jugera les pauvres, il jugera les malheureux, et bien sûr, il jugera le méchant. Tous les trois catégories sont mentionnées en Ésaïe 11, versets 3 et 4. Maintenant, reportons au Nouveau Testament, à Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Nous avons vu tout à l'heure ce passage, cette décision du Père qui a donné le jugement au Fils. Maintenant, regardons où se trouve Jésus-Christ, notre juge suprême. Romains chapitre 8, le verset 34. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Son emplacement à la droite de Dieu nous évoque l'endroit où les sentences sont prononcées. Nous avons le soutien de l'Éternel. Il n'est pas contre les siens. Jésus-Christ n'est pas en train de dire au Père, « Père, non, vous n'aurez pas dû choisir celui-ci. » Vous voyez, il y a des possibilités à influencer dans les cours, n'est-ce pas? Les juges peuvent être corrompus. Mais Jésus-Christ, bien sûr, n'est pas corrompu comme les hommes. Mais au contraire, il intercède pour les siens. Il intercède pour le bien des siens. Jean 12 et le verset 47. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 nous indique comment se passe, à partir de quoi on aura le jugement. Jean chapitre 12 et le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est bien Jésus-Christ qui est sur terre, qui est sur la terre, qui est en vie physique sur la terre, et il dit ces choses pendant son ministère sur la terre. Verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. » Encore une fois, nous voyons que Jésus-Christ répète ce que le Père avait dit. Il représente le Père. Il est le reflet de la volonté du Père. Et c'est toujours comme ça qu'ils sont. C'est, ils sont un. Comme il a prié, nous sommes un. Et je voudrais qu'eux aussi soient un avec nous. L'idée que c'est qu'on est toujours d'accord, on est toujours sur la même feuille. Mais celui qui rejette la parole, qui rejette les commandements, sera jugé par la parole, comme il est écrit ici, au dernier jour. Les gens seront jugés sur ce que a été révélé. Les gens seront jugés sur ce qui leur est révélé. Comment faire autrement? Est-ce que la justice de Dieu serait vraiment juste si Dieu jugeait les personnes sur des choses qu'ils ne savaient pas? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être jugé pour quelque chose que vous ne connaissiez pas? Par exemple, il y a peut-être, vous entrez dans une maison de quelqu'un, comme, je ne sais pas, la famille Smith, on peut dire ça, la famille Dupont, par exemple, et chez eux, il faut toujours enlever les chaussures, et aussi, il ne faut jamais s'asseoir à côté de Monsieur Dupont, par exemple. Mais eux, ils ont ces règlements chez eux. Quand vous entrez chez eux, vous faites comme vous avez l'habitude de faire, mais eux, ils vous observent, vous n'enlevez pas vos chaussures, vous vous asseoir à côté de Monsieur Dupont. Hop. Et puis, est-ce que Madame Dupont vous dit, vous êtes jugé parce que vous aurez dû enlever vos chaussures et vous ne devez pas s'asseoir à côté de mon mari. Ça, c'est jugé sans que vous soyez au courant de n'importe quelle règle, n'est-ce pas? Donc, c'est illogique de juger quelqu'un sur quelque chose qui ne sont pas prévenus. Ils ne sont pas prévenus sur des choses et on les juge. Dieu ne fait pas comme ça non plus. Ça serait illogique, n'est-ce pas? Mais c'est un peu comme ça que, si vous voulez, que le monde voit les choses. La personne qui est née en Chine, qui ne connaît jamais la parole, qui n'a jamais l'occasion d'entendre la parole de Dieu, est-ce que lui, il passe à l'enfer? Est-ce qu'il est jugé pour rien savoir? Ça, pour moi, ce n'est pas logique, ce n'est pas juste. Ce n'est pas le juste jugement dont nous lisons dans la Bible. Jésus-Christ, par contre, est juste juge. Un juge qui fait des jugements parfaits, sans défaut, sans faiblesse. Par exemple, dans les années 2000 et 2010, depuis une vingtaine d'années, dans le monde, la technologie pour analyser l'ADN a beaucoup avancé, n'est-ce pas? Ça avance quand même encore très vite. Ceci a déjà donné lieu à des efforts pour renverser des décisions des tribunaux sur certains crimes. Vous savez pourquoi? C'est que le juge n'avait pas la possibilité d'analyser l'ADN pour déterminer la culpabilité ou non de cette personne. Donc, le juge a été obligé quand même de faire la sentence, comme il a vu les faits, il a vu les preuves, comme ça. Mais, par contre, la faiblesse de l'homme, c'est qu'il a mal jugé, n'est-ce pas? Il y avait un accusé qui a été envoyé en prison, qui était toujours en prison, et maintenant, aujourd'hui, nous avons des personnes, un tout petit groupe de gens, qui ont été condamnés à tort, mais qui sont encore en prison pour leurs crimes qu'ils n'ont pas faits. Et pour eux, ça vaut le coup de voir si des preuves génétiques existent dans les preuves qui ont été collectées pour leur affaire. Et ils embauchent des fois des personnes pour aller rouvrir l'affaire et considérer l'évidence pour chercher des petits bouts d'ADN pour prouver que c'était quelqu'un d'autre qui a fait ce meurtre ou ces choses comme ça. Je peux vous dire que vous comprenez. Mais l'évidence ADN n'était pas utilisée il y a des années et des années, n'est-ce pas? Ça veut dire que le jugement de l'homme, je vous dis tout ça pour vous dire que le jugement de l'homme n'est pas parfait, n'est-ce pas? Nous le savons, mais c'est quand même, ça monte un petit niveau quand on condamne quelqu'un à mort et on a tort. Ou, si j'étais juge, j'aurais vraiment du mal à apprendre que j'avais condamné quelqu'un à mort et que maintenant ma décision est renversée parce que j'avais tort. C'est quand même quelque chose qui arrive aujourd'hui. Il y a des reportages que vous pouvez voir aussi pour les cas particuliers. Donc, dans certains des cas, on peut renverser des décisions, la décision, et la personne peut même sortir de prison tout de suite. Dans certains cas, c'est plus difficile parce que les évidences ne sont pas admissibles. Ils n'ont pas la possibilité de prendre un prélèvement de la personne qui aurait eu la culpabilité. Donc, vous savez, il y a des règles, des complications. Mais tout ça pour dire que le jugement de l'homme n'est pas parfait. Quelque part, il y a un problème dans le système, n'est-ce pas? En général, cela revient à nos faiblesses humaines dans le jugement. Celui qui est le juge suprême, Jésus-Christ, ne fera pas d'erreur dans son jugement du monde. Et il n'aura pas une erreur jusqu'à présent. Il n'a pas fait d'erreur jusqu'à présent non plus. Jésus-Christ a beaucoup d'expérience du jugement. Examinons maintenant, passons à l'étape suivante pour examiner la première période de jugement mentionnée dans la Bible. La première période de jugement mentionnée dans la Bible, c'est l'époque, celui qui existe depuis l'époque d'Adam et Ève jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc ça, c'est ce que je vais appeler aujourd'hui le premier jugement. Nous sommes toujours dans cette période de jugement aujourd'hui. Mais seulement une partie de ceux qui vivent dans cette période sont jugés maintenant. Qui alors est jugé maintenant? Jean 6, 44 et 45. Jean 6, 44 et 45. Nous connaissons Jean 6, 44, bien sûr. Mais nous allons ajouter verset 45 avec pour répondre à cette question. Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Il est important d'entendre ou d'avoir l'appel de Dieu, d'avoir des oreilles pour entendre, on peut le dire comme ça aussi. L'idée ici de recevoir son enseignement est assez profond aussi. Ça indique une volonté d'apprendre, une volonté qui existe, une réponse positive à l'appel de Dieu, un engagement même. Quand je lis les mots « viens à moi », cela me fait penser au repentir aussi. Un changement de direction. Quand on entend l'appel et on change de direction pour aller vers lui, vers Jésus-Christ dans ce sens-là, vers ses enseignements, ça veut dire le repentir. Parce qu'on change de direction dans la vie, on change du chemin qui mène à la mort au chemin qui mène à la vie. Donc on change de direction, on repent de ses péchés. Reportons-nous maintenant à 1 Pierre, chapitre 4. Nous avons vu cette catégorie, si vous voulez, de personnes qui sont jugées maintenant. Ce sont des personnes qui ont reçu l'enseignement et qui sont engagées dans cette voie qui mène à la vie. 1 Pierre 4. Pierre décrit ici une liste de gens qui ont la honte car ils sont jugés pour leurs crimes et leurs délits dans la vie physique. Il les met en contraste aux bienfaits du chrétien qui vit la souffrance sous les autorités du monde. Donc, regardons ce contraste ici. 1 Pierre 4 à partir du verset 15. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, ce que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Or, si c'est pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Donc il y a des catégories ici, comme je vous ai dit, les personnes qui ont honte pour des crimes, ça c'est, comme nous disons peut-être, ça c'est normal. Mais d'avoir une souffrance pour les bienfaits, c'est pas normal dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose que nous vivons quand même. Nous pouvons souffrir même si nous faisons le bien dans ce monde autour de nous. La logique de Pierre, c'est que notre comportement n'est pas le résultat de notre traitement actuel, mais le résultat de notre foi en Dieu, y compris notre confiance dans son bon jugement, sa justice. Si nous comptons sur lui pour le bon jugement, si nous sommes fidèles à lui parce que nous sommes convaincus que c'est lui qui va quand même rendre justice, qui va prononcer le bon justice, la justice, le bon jugement, nous pouvons avoir de la paix en sachant que même si on nous maltraite aujourd'hui, Dieu aura quand même un jugement. Dieu va intervenir pour nous. On continue maintenant au verset 18. Et si le juste ne se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Depuis le tout début, l'esprit malin essaie de convaincre les hommes que Dieu n'est pas juste. Le sens de l'injustice est programmé dans les humains, n'est-ce pas? Nous reconnaissons l'injustice quand on a complètement maltraité. Et depuis longtemps, les hommes, bons se demandent pourquoi il y a tellement d'injustice dans le monde. Depuis le tout début, l'esprit malin essaie de convaincre les hommes que Dieu n'est pas juste. Le sens de l'injustice est programmé quand même dans les humains. Nous le reconnaissons quand on est maltraité. Et depuis longtemps, les hommes bons se demandent pourquoi il y a tellement d'injustice dans le monde. Même dans les psaumes, ce sentiment est souvent indiqué par l'expression « jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand ?» Même la fausse doctrine que les hommes montrent aux cieux après la mort est quand même basée sur un sens naturel de justice. Pour les hommes, il est quand même logique que la récompense soit juste après la fin de la vie physique. Pour eux, attendre, c'est pas très logique, attendre dans les sépulcres. Donc la logique des hommes a fait irruption dans les croyances des fausses églises, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'homme aujourd'hui pense souvent à un après-vie qui est bien différent à ce que Dieu décrit dans la Bible. Dans Hébreux 11, nous lisons d'un groupe de personnes qui ont vécu pour une meilleure résurrection. Hébreux 11, chapitre 39, pardon, chapitre au verset 39 et 40. Hébreux 11, verset 39 et 40. Donc, on parle ici de personnes qui sont fidèles. Verset 39. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Donc il y a une attente, n'est-ce pas? Ces personnes, comme nous, se sont approchées à Dieu. Comme nous avons lu tout à l'heure nous avons lu dans Jean 6, 45, ils ont reçu l'enseignement. Ils ont été jugés pendant leur vie, car ils avaient la vérité. Ils attendent dans le sommeil de la mort, la fin de cette période de jugement pour la résurrection à la vie spirituelle. Les gens attendent, ils ne sont pas en train de se balader aux cieux, comme le diraient beaucoup de personnes dans le monde. La nouvelle alliance demande le repentir et l'imposition des mains pour recevoir le don du Saint-Esprit. La nouvelle alliance, eh bien, implique aussi des meilleures promesses. La nouvelle alliance demande le repentir et l'imposition des mains pour recevoir le don du Saint-Esprit. Reportons-nous maintenant à 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Lisons versets 1 et 2. 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Encore une fois, le jour du salut est aujourd'hui pour ceux qui reçoivent la grâce de Dieu et bien sûr ceux qui reçoivent, comme nous avons lu, l'enseignement et l'appel de Dieu. Ils recevront le jugement au retour de Jésus-Christ. Ils sont jugés maintenant, ils auront la récompense au retour de Jésus-Christ. Nous approchons aujourd'hui à la fête des trompettes, une fête qui nous fait penser aux trompettes qui sonneront lors du retour du juge suprême. Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7 à partir du verset 21, nous notons ici le retour de l'ancien des jours. Daniel 7, verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. C'est bien indiqué que les saints recevront le royaume à cause du bon jugement de Jésus-Christ. Il aura les preuves de la fidélité des siens lors de son retour. Nous avons tous besoin de fixer nos yeux sur le royaume à venir. Les petits problèmes peuvent nous distraire de temps en temps. Même dans l'Église, on peut passer notre temps à se maltraiter les uns les autres. Souvent, quand on maltraite quelqu'un, c'est à cause d'un jugement qu'on a passé sur eux. On a jugé peut-être qu'ils ne sont pas sincères, qu'ils ne sont pas gentils, qu'ils ne sont pas X, Y ou Z. Je vais vous lire quelque chose maintenant qui est très sérieux par rapport à ça. Romains chapitre 14. Ce qui nous rappelle de l'importance de notre comportement personnel, mais qui comprend la façon avec laquelle nous traitons nos frères et sœurs de l'Église. Romains 14, à partir du verset 10. En s'approchant à la fête des tabernacles, mettons tous nos difficultés, nos différences de côté et soyons solidaires. Fixons les yeux sur le royaume que Dieu nous a promis. Romains chapitre 14 et verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparâtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est profond, n'est-ce pas? Il va nous juger tout comme nous jugeons les autres. C'est dans la même pensée que ce que nous avons étudié par rapport au pardon, n'est-ce pas? Si nous allons recevoir le pardon, il faut apprendre à pardonner. Nous avons tous besoin de nous approcher de lui souvent pour demander le pardon de nos péchés. Il les oubliera si notre repentir est sincère. Mais en même temps, pensons aux autres. Pensons à notre comportement envers nos frères et sœurs. Parce que nous pouvons facilement perdre notre chemin qui mène à la vie en se focalisant sur ce jugement les uns les autres. Mais au lieu de faire ça, soyons solidaires, soyons unis dans nos pensées et fixons les yeux sur le royaume à venir. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10. Parce que, si vous voulez, c'est peut-être utile de considérer le fait qu'il n'y a pas une personne entre nous qui va éviter de passer devant le tribunal du Christ. Donc, pourquoi les mettre en tribunal aujourd'hui? Pour quelque chose que nous avons considéré comme un jugement. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc, Dieu est juste juge. Laissons-lui juger et avançons vers son royaume tous ensemble. Maintenant, passons au deuxième jugement. Le deuxième jugement, c'est du début du millénium à la fin de la période du grand tremblement. Du début du millénium à la fin de la période du grand tremblement. Voici un jugement pour tous ceux qui sont aujourd'hui aveuglés. Malgré le fait que beaucoup ont entendu les émissions radio et télévision à l'époque de l'Église de Dieu universelle, relativement peu ont répondu. Et on peut dire la même chose aujourd'hui. Par rapport à nos efforts à prêcher l'Évangile par Internet, il y a des millions qui ont déjà vu les articles ou les revues, le site Internet, mais relativement peu ont répondu. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Dieu doit appeler, comme nous avons lu dans l'Évangile de Jean. Il doit appeler, mais si nous considérons ceci, si nous semons la bonne sémence, il peut nous permettre de produire plus de fruits, n'est-ce pas? Il est très important de garder en tête l'importance de prêcher l'Évangile. C'est l'œuvre principale de l'Église. C'est une façon de semer et de produire du bon fruit. Ça ne peut pas commencer si on n'a pas la sémence, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne l'appel. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, l'aveuglement continuera. Reportons-nous maintenant dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13. L'Évangile de Matthieu, chapitre 13. Ici, Jésus répond à ses disciples qui lui demandent pourquoi il parle en parabole. Matthieu 13, commençons à lire à partir du verset 13. Il répond, « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » On peut mettre les écouteurs, on peut passer un sermon, et on peut faire une activité, on peut cuisiner, on peut faire des choses. Est-ce que c'est possible de ne pas entendre ou comprendre ce qui passe dans nos oreilles, même si on est en train d'écouter, si ça passe dans nos oreilles? C'est la même chose ici. C'est possible d'entendre sans comprendre. C'est possible que la voix entre dans les oreilles, mais qu'on reste endormi ou aveuglé. Donc, il est écrit au verset 14, « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent pas ou qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Voilà comment l'aveuglement peut avoir lieu. Mais quand même, l'enseignement qui est en cours aujourd'hui, quand nous considérons ce deuxième jugement, on parle quand même du millénium et la période du grand tremblement. Et c'est quand même une période de beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignants, beaucoup beaucoup de sacrificateurs aussi, beaucoup de personnes qui sont capables d'enseigner et de prêcher, des êtres spirituels, les prémices qui vont quand même enseigner les nations. L'enseignement continuera depuis le début du millénium. Mais donc, à quel moment les nations auront-ils la connaissance? Est-ce qu'ils vont tout comprendre dès le départ? Matthieu 25 et le verset 31 nous indiquent quelque chose. 31 et 32. Ces versets parlent de l'avenir. Ces versets nous indiquent quelque chose d'important par rapport aux nations. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc la gloire de Dieu surmontera à cette époque les ténèbres du monde. Satan sera lié aussi. Et puis verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec des boucs. Cette période de séparation est bien sûr, frères et sœurs, une période de jugement. Même les saints auront une autorité à cette époque. Nous avons lu la semaine dernière que les saints ressuscités auront des trônes. Il est important alors d'apprendre la loi, la justice et le jugement équitable dès maintenant pour nous tous. Il n'y avait aucun doute dans les conseils de l'apôtre Paul par rapport à ce sujet. Je vous cite 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? » Plus tôt, nous avons lu Jean 5 verset 22 concernant le rôle de juger qui est passé du Père au Fils. Étant donné que Dieu ait prévu d'autres enfants et que même Jésus est déjà mentionné aux apôtres, Matthieu 19, verset 28, qu'ils jugeront Israël, on peut comprendre que le rôle de juger fera partie de l'autorité que les saints hériteront. On va en parler à la fête des tabernacles, mais la voile qui aveugle les nations sera enlevée. Reportons-nous en Ésaïe chapitre 25. Ça nous donne beaucoup d'espérance. Comme c'est souvent mentionné, qu'est-ce qui se passe pour ma famille qui n'est pas dans l'Église? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux? Eh bien, ils auront un jugement. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui la période de jugement pour la majorité des hommes. Ésaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Dieu fera une alliance nouvelle avec Israël, basée sur une relation individuelle, sans un intermédiaire humain comme dans le passé. une alliance avec des meilleures promesses auparavant. Vous connaissez l'écriture Jérémie 31, verset 31, mais lisons verset 31 à 33. Reportons-nous à Jérémie 31 et lisons le verset 31 à 33. C'est quand même un grand changement quand on considère l'alliance avec Israël dans l'Ancien Testament et la nouvelle alliance qui est au niveau individuel dans le Nouveau Testament. C'est quand même une différence. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont aujourd'hui dans l'Église qui auront cette occasion de recevoir le Saint-Esprit et de recevoir la loi de Dieu comme nous le recevons aujourd'hui. Donc, Jérémie 31 et verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc, dans le millénium, ceux qui vivront et ceux qui naîtront auront l'occasion de connaître Dieu, pas comme aujourd'hui, mais dans un nouveau sens. L'appel de Dieu sera clair pour tous. Ils auront l'occasion de vivre et de mettre en pratique l'instruction de Dieu. Ils seront jugés tout comme l'Église est jugée aujourd'hui pendant la vie physique. Nous allons passer du temps à discuter cette vie à la fête des tabernacles. Mais aujourd'hui, nous y touchons pour dire que c'est également une période de jugement. Mais pour la plupart des hommes, le jugement sera pendant la période du grand tremblement. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 25. Jean chapitre 5 et le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Maintenant, continuons au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. On est bien dans une période à part du millénium, car il est sujet de la deuxième résurrection de ceux qui n'ont jamais entendu la voix de l'Éternel. Continuons avec le reste du verset 28. Et en sortiront, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, le mot grec, encore une fois, krisis, qui a été traduit jugement, indique soit une condamnation, soit une investigation, une sorte d'analyse. C'est combien de temps cette période du grand tremblement? Passons maintenant à l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Matthieu 10, verset 15. Matthieu 10, et le verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc, pour moi, ce verset nous indique qu'il y aura une période de temps pendant laquelle certaines conditions existeront. Le mot jour peut même indiquer une période de temps en général. Ce n'est pas strictement lié à un an prophétiquement. Mais il est intéressant de considérer avec ce verset quelque chose qui va avec, c'est à l'évangile de Matthieu chapitre 12. Donc gardons en tête ce que Jésus a dit par rapport à Sodome et Gomorre. Au jour du jugement, ok. Donc il parle de Sodome et Gomorre qui n'existent plus depuis longtemps, bien sûr. Et il parle aussi de cette ville-là. Mais ici, au verset, au Matthieu chapitre 12 et le verset 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Le timing, le moment est impeccable, n'est-ce pas? Le timing, comme on dit, à Dieu est impeccable. Dieu met en place certaines choses qui se passent exactement quand il a prévu qu'ils passent. Par exemple, ici, nous avons ici que tous ces gens soient vivants en même temps, qu'ils soient des personnes qui étaient à Ninive, qu'ils soient des personnes qui étaient à Sodome et Gomorre, ou des personnes plus récentes qui étaient dans les villes que Jésus parcourait pendant son ministère sur la terre. Donc, toutes ces générations auront un moment où ils vont vivre en même temps, et c'est quand même une période de jugement. Ils connaîtront tous le grand tremblant. Considérons Ézéchiel chapitre 37 et le verset 14. Ézéchiel chapitre 37 et le verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc, Ézéchiel, ici, on parle des ossements qui sont des personnes qui sont quand même ressuscitées à la vie physique. Et ce qu'il explique ici, c'est « Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Quand même, il y a une motivation à ressusciter ces gens. C'est pour qu'ils sachent que l'Éternel existe. Pour qu'ils puissent accéder à cette nouvelle alliance. Le monde entier sera impliqué. Il doit y avoir de la place pour beaucoup de gens dans ce moment-là. Dieu est capable de ressusciter tous ceux dont nous avons discuté à la vie physique comme ça. Mais il a prévu quand même que tous les hommes passent par une période de jugement. Une période pendant laquelle ils sauront que c'est Dieu qui est Dieu, que l'Éternel est Dieu. Ils connaîtront la loi de Dieu, les commandements, les préceptes de Dieu. Et ils auront l'occasion, bien sûr, de choisir cette voie qui mène à la vie éternelle. Aucune personne manquera cette opportunité. Dieu a prévu un moment pour que chaque personne passe par le jugement. Maintenant, passons au troisième jugement. Le troisième jugement, c'est la période du grand tremblant jusqu'à la nouvelle terre. Ce jugement n'est que pour les incorrigibles, les méchants. C'est un jugement pour la condamnation. Nous savons tous que Dieu est capable d'anéantir la chair et l'esprit. Voici des méchants qui ont été jugés pendant la vie physique. Les preuves sont déjà évidentes. La décision sera déjà prise. Ils auront déjà eu leur opportunité et ils l'auront déjà rejeté. Job 21, c'est une sorte d'avertissement pour le méchant. Job 21, le verset 30, nous indique un avertissement pour l'incorrigible. Le livre de Job, chapitre 21, et le verset 30. Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tous après lui suivront la même voie. Comme une multitude l'a déjà suivi. Donc, ici, Job mentionne un jour du malheur. Il semble aujourd'hui que le malin, que celui qui est méchant, évite la punition. Si on regarde la vie aujourd'hui, si on regarde les crimes, les personnes qui profitent des pauvres, des opprimés, si on regarde la façon avec laquelle le monde marche et n'en connaît pas plus que ça, donc le monde est complètement injuste, n'est-ce pas? La vie est injuste. Si on considère que ce qu'on voit avec les yeux, si on ne considère pas le plan du salut que Dieu a déjà établi pour tous les hommes, alors on peut quand même être vraiment en dépression si c'est tout, c'est ici, dans cette vie, c'est tout. Et c'est ça le cas. On voit beaucoup aujourd'hui la dépression des personnes qui sont complètement découragées. Ils n'ont pas du tout la foi et ils n'ont pas d'espérance. Donc, Dieu nous donne de l'espérance que quand même nous avons quand même la possibilité tous d'accéder à cette décision de prendre ou pas la vie éternelle qu'il nous offre. Mais pour le malin, pour celui qui est déjà méchant, il peut, entre guillemets, profiter aujourd'hui, mais il aura sa journée de colère, où Dieu montrera son jugement. Et ceci, pour ceux qui sont considérés les incorrigibles, les méchants, c'est pour ça que nous avons cette période, que Dieu a déjà prévu cette période, parce que Dieu connaît le cœur des hommes, il est capable de juger le cœur, il sonde le cœur des hommes. Donc ce jour, cette période est réservée pour le méchant. La Bible indique partout qu'il n'y a que deux sorts, si on réduit tout, tout simple, c'est soit la vie, soit la mort. Si Dieu nous encourage, bien sûr, il nous encourage à choisir la vie. Mais quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est bien la question de Pierre dans 1 Pierre 4. C'est bien cette question. Et nous aussi, nous sommes intéressés à comprendre, pour bien comprendre la justice de Dieu. Jésus-Christ étant le juge suprême de tout le monde, nous voulons comprendre le sort de pour ces personnes. 1 Pierre 4, le verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» C'est ça, cette question. C'est qu'est-ce qui se passe pour ceux qui profitent aujourd'hui, pour ceux qui semblent avoir le pouvoir aujourd'hui? Quel est leur sort? Reprenons Daniel chapitre 12. Daniel discute les résurrections, il discute les deux sorts, pour les hommes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Daniel 12 et le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ici, Daniel parle de la mort éternelle. Ces personnes n'existeront plus. Ça, c'est juste, n'est-ce pas? Une punition qui termine, qui ne laisse pas exister le méchant. Il y en aura qui ne vont jamais repentir, malheureusement. Dans Hébreux, nous lisons d'une catégorie de personnes qui entendent, qui répondent, et puis, malheureusement, qui abandonnent. Hébreux chapitre 6, encore une fois, nous avons déjà lu une partie d'Hébreux chapitre 6. Mais maintenant, lisons le verset 4 à 6. Hébreux 6, verset 4 à 6. Il y en a qui seront en rébellion contre la loi de Dieu, qui connaîtront la loi, qui auront l'occasion d'accepter Dieu, mais qui seront en rébellion, qui seront les méchants. Hébreux 6, verset 4. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Ceci correspond à ce péché qui est en rébellion contre la loi de Dieu. Continuons en Hébreux chapitre 10 maintenant, à partir du verset 26. Il y en a qui peuvent pécher volontairement. Pour nous, c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui voudrait pécher, qui voudrait être en rébellion contre Dieu. Mais ces gens, j'espère que vous n'avez pas pu rencontrer quelqu'un comme ça, mais ces gens existent d'après la Bible. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Un feu qui dévorera les rebelles, un feu qui mettra à faim ces rebelles. Dévorera, c'est consommer complètement. Ils n'existeront plus. Tout à la fin, Dieu prévoit, bien sûr, de relâcher Satan une dernière fois. Malheureusement, une dernière grande déception aura lieu, mais celle-là sera la dernière. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il est écrit, Apocalypse chapitre 20, « Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Voilà le troisième jugement, verset 9. « Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Ces rebelles seront également punis, seront anéantis, dévorés. Les preuves seront claires aux yeux de Dieu. Il sonde le cœur de l'homme et il saura juger. Donc, ce troisième jugement comprend ceux qui sont des rebelles, qui sont des méchants, qui sont incorrigibles. Mais Dieu donnera quand même l'occasion à ces gens-là de vivre et d'accepter sa vérité. Maintenant, passons au quatrième jugement, le jugement de Satan et ses agents. Quatrième jugement, jugement de Satan et ses agents. Nous n'allons pas y reporter, mais Jean chapitre 16 et le verset 11 dit que le prince de ce monde est jugé. Le comportement de Satan a déjà été jugé. Il a déjà reçu sa sentence. Il est condamné. Il ne s'est pas repenti. Il est méchant. Mais c'est aussi un être spirituel. Mais Dieu l'emploie comme outil. Apocalypse chapitre 20. Ce quatrième jugement. Apocalypse chapitre 20 et le verset 10. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous voyez que ici, c'est quand même un cadre limité. Mais pour telle ou telle raison, l'homme voudrait imaginer que ce type de souffrance est prévu pour tous les hommes qui n'acceptent pas la voie de Dieu. Mais il est bien écrit ici que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Donc, ils seront tourmentés jour et nuit, siècle des siècles. C'est quand même un jugement, c'est une punition même. Parce que, comme nous avons dit, le jugement, la décision est déjà prise par rapport aux punitions de Satan. C'est pour ça que c'est déjà écrit ici aussi. Son cas est déjà décrit. Et c'est quand même pour nous un encouragement que le diable n'aura plus la main dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'avenir spirituel. Quand les cieux seront tout renouvelés. La Nouvelle Jérusalem n'aura pas du tout contact avec Satan. Il sera anéanti, mis à part pour toujours. C'est même écrit dans Ésaïe chapitre 24 que l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Il est écrit que ces gens seront captifs dans une prison. Et puis qu'ils attendront leur châtiment après un grand nombre de jours. Satan sera enchaîné pendant le millénium et puis il sera châtié. L'épître de Jude discute la punition de Satan, mais nous n'allons pas y aller aujourd'hui. Nous allons attendre le dernier grand jour pour rentrer plus dans les détails. Mais aujourd'hui, nous allons considérer les jugements de la Bible. Soyons heureux que nous ayons des oreilles pour entendre et comprendre ces mystères. Le juge suprême nous appelle à une formation particulière. L'Église est jugée aujourd'hui sur ce que Dieu l'a révélé. Sa loi, ses préceptes, ses commandements. Au lieu de passer notre temps à juger les autres, laissons-le à Dieu. Faisons notre part. Là où nous sommes. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour juger le monde, pour punir le monde, pour rendre coupable le monde. Mais faisons notre mieux pour faire part à la première résurrection, la résurrection des saints du Très-Haut.